m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Quand vous recevez un album avec collé sur le blister un autocollant Révélation Jazz de l'année et qu'on est au tout début du mois de janvier 2018, vous vous dites que l'artiste ne se mouche probablement pas du pied. Et quand vous vous mettez à écouter le disque, il faut bien reconnaître qu'on est bluffé. On découvre un jazz vocal qui swing entre beaucoup de français et un tout petit zeste d'anglais, porté par une voix sensuelle et rieuse qui virevolte entre les styles avec virtuosité. Et l'on découvre 16 titres pleins de personnalité, parfois sensibles, souvent ludiques, parsemés de jeux de notes et de jeu de mots qui révèle visiblement un sacré tempérament. Un album dans lequel l'artiste se raconte, rend hommage aux anciens et dévoile un éclectisme de bon aloi. Bref, on se dit alors qu'on ne peut pas ne pas inviter Camille Berthaud. Son album s'intitule Pas de géant, il est disponible chez Sony Music et vous m'en direz des nouvelles.
J'ai beau fixer cet œil formé par deux immeubles, le cimetière de Montparnasse en guise de pupille ne sait me souffler que du vide. Tu me fais de l'œil et moi je te fais les yeux doux. J'ai des notes à inventer et je les cherche en vain dans ton iris entaché de prunes. Et parfois une éclaircie, que ce soit côté cour ou jardin, tu l'y perds de tes coulisses. Plumer mes esquisses et selon l'humeur tu te défiles. J'ai beau m'incliner devant toi pour que tu causes, plutôt que de t'attendrir, autant t'attendrir. As-tu là où je veux que tu m'emmènes.
Bonjour Camille Berthaud.
Bonjour.
Un deuxième album, c'est autant d'émotions que le premier?
Ce sont des différentes émotions, je dirais. Le premier album, c'est l'émotion de la nouveauté, quoi. C'est vraiment l'expérimentation de bon, bah je vais enregistrer pour la première fois.
Ça y est, j'y suis arrivé.
C'est ça, ce que j'ai dans la tête. Le deuxième, j'ai pas envie de me répéter.
Oui.
J'ai envie d'aller un petit peu ailleurs. J'ai envie de me servir de mes expériences que j'ai eues pour le premier album. Donc vraiment différentes émotions, mais toujours de la même intensité, en tout cas, c'est sûr.
Entre les deux albums, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un pas de géant ?
Énorme. Énorme. Alors bon, après, c'est toujours subjectif, hein, la grandeur.
Oui, mais c'est,
mais pour moi,
c'est
en
ce
tout
que
cas,
vous pensez qui nous intéresse.
C'est ça. Pour moi, c'est vraiment un pas de géant dans ma vie, personnellement, musicalement. Il y a beaucoup de choses qui ont... je me suis un petit peu détachée de la chanteuse de jazz que je voulais être dans le premier album. Là, je me pose pas vraiment la question d'être une chanteuse de jazz ou pas. Je fais vraiment ce que j'aime. Et ce deuxième album montre ça. En tout cas, je l'espère.
Alors, cette chanson Entre deux immeubles, c'est un titre dont vous signez à la fois les paroles et la musique et que vous chantez, donc avec les musiciens que vous avez embarqués dans cette nouvelle aventure. C'est une chanson sur l'inspiration.
C'est ça. C'est de chez moi. On voit, il y a une vue assez étroite, donc entre deux immeubles.
Ouais.
Et en fait, je suis en face de cette vue quand je compose, quand je cherche. Et des fois, l'inspiration ne vient pas.
Ouais.
Donc,
vous avez vous aussi l'angoisse de la page blanche?
On l'a toujours, je pense. On l'a toujours. Mais cette angoisse peut être assez positive parce que c'est elle justement qui donne l'adrénaline suffisante et qui font venir les idées.
Mais vous êtes une graphomane plutôt dans le style à écrire, composer. Oui, absolument. Vous avez besoin de la pression pour pouvoir imaginer.
C'est là que quand les choses doivent sortir, c'est là justement qu'elles sortent d'autant plus. Et j'ai pu vivre plusieurs situations, mais celle-ci me réussit assez bien.
Oui, et c'est aussi entre deux immeubles que lorsque vous sortez de chez vous, vous allez vous balader. Vous êtes une urbaine.
Je suis assez urbaine, ouais. En fait, j'aime le contraste surtout. J'aime très urbain ou alors complètement perdu dans la campagne. Voire, j'adore le désert. Quand j'ai eu quelques fois l'occasion d'y aller, voilà, j'aime les ambiances très contrastées.
Oui. Et l'ambiance, l'atmosphère, c'est aussi ça que vous sentez et qui vous donne aussi l'idée de mots ou de notes.
Ah bah complètement. Les mots, les notes sont sont assez influencées par l'environnement dans lequel on vit. Donc
composer, c'est d'abord un état d'esprit.
Ouais, composer, bah c'est en tout cas essayer d'être dans une sincérité, une réceptivité suffisamment grande pour essayer de transmettre ce qu'on ressent au moment présent.
Série de jeux de mots là qu'on entendait à l'instant, Camille Berthaud, par lesquels vous rendez hommage à quelques légendes de New York. Alors New York, c'est une ville qui n'est pas neutre, évidemment, quand on aime le jazz. Une ville que vous avez découvert, c'est ce que vous chantez, hein, comme un puceau. C'est quoi pour vous New York? Ou c'est qui plutôt New York? C'est un fiancé? C'est un amant?
Peut-être. C'est en tout cas, c'est une ville dont je ne voulais pas tomber sous le charme parce que je me disais, je vais pas faire comme tout le monde, comme tous les gens qui disent, ah si tu fais du jazz, tu dois absolument aller vivre là-bas, oh, la grandeur là. Et puis je me disais, je vais pas me faire avoir moi. Et je me suis justement complètement faite avoir et j'ai été dès le premier pas posé sur son sol, j'ai été intimidée justement comme un petit garçon, comme un voilà.
Oui, mais vous vous êtes fait avoir par qui? Par quoi?
Ben, je me suis fait avoir par... Parce que c'est une ville assez surprenante, en fait. Déjà, par les rencontres que j'y ai faites, y a une énergie qui élève. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est quelque chose que je ressens à chaque fois que j'y vais. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de luminosité. J'ai peut-être eu beaucoup de chance, mais il y a vraiment de la lumière. Il fait froid, c'est vrai, mais il y a de la lumière là-bas. Et plein d'éléments. Et c'est une ville où je n'ai pas peur d'être seule. Je peux me promener dans la rue seule, je peux manger seule, je peux rester dans un parc seule. Je ressens pas cette pression de la solitude et je trouve que c'est fort ça.
Et artistiquement, il y a une façon new-yorkaise d'écrire, de chanter, de composer, de jouer de la musique?
Bah, je dirais que la vie n'est pas facile pour des artistes à New York. Enfin, la vie n'est pas facile de manière générale. Il faut travailler constamment. Il y a pas de sécurité sociale. Il y a pas d'intermittence. Donc, du coup, l'énergie est très très différente. Et c'est vrai que les musiciens que j'ai pu rencontrer là-bas sont dans cette énergie-là. Et ça change beaucoup de choses.
Et donc, l'album a été réalisé avec des musiciens new-yorkais.
C'est ça. Donc avec Dan Tepfer, mais qui est franco-américain. Parce que j'avais vraiment besoin de personnes qui ont aussi une connaissance de la culture française, qui pouvaient comprendre mes textes. C'était très très important pour moi. Je voulais pas débarquer avec mes compositions et textes sans qu'ils soient compris par les interprètes. Donc voilà.
Dan Tepfer, c'est le pianiste, hein, entre
Dan
autres.
Dan Tepfer est le pianiste. Michael Leonard parle très bien français. C'est donc l'arrangeur et trompettiste de l'album. Et puis il y a eu Jeff Ballard, qui est américain, qui vit en France. Joe Sanders aussi, qui est américain et qui vit en France. Et puis Christophe Mink, Stéphane Guillaume et d'autres, parce qu'on est assez nombreux, qui eux sont français.
Camille Berthaud, fille du jazz, on l'a compris, pas seulement du jazz d'ailleurs, on va y venir, fille d'un père pianiste aussi, c'est avec lui que vous avez commencé à chanter, à
oui,
côté de son piano à lui.
C'est ça, il est ingénieur du son, mais aussi il a toujours fait du piano, plutôt jazz. Donc ce qui est assez amusant, c'est qu'il m'a appris le piano et je suis allée au conservatoire assez jeune et j'ai appris donc le piano classique, mais à la maison, donc il se mettait au piano et puis moi je chantais du coup, puisque lui il était au piano, que je prenais pas sa place, donc j'ai toujours chanté, improvisé. J'ai appris ça d'abord vraiment avec la voix.
Voilà, donc formation sur le terrain avec papa, donc avec la voix, et puis formation musicale, on va dire classique, traditionnelle au conservatoire. Mmh. Vous étiez donc au piano, hein, également au conservatoire, c'est ça?
Ah oui, complètement.
Et pourquoi vous l'avez abandonné?
Bah, c'était des études qui étaient assez strictes, hein. Donc, il y a plein de choses positives.
Ouais, mais on sent beaucoup de rigueur quand même dans l'album, là. Donc, on va pas dire que vous n'avez pas le perfectionnisme, pas du tout.
Non, c'est sûr, mais j'aime la liberté qu'on peut trouver dans le jazz. J'aime la musique improvisée. Et c'est bien dommage parce que, en tout cas, moi, dans mon enseignement au conservatoire, j'ai pas pu, conservatoire classique, j'ai pas pu bénéficier de cours d'improvisation. Et ça, je trouve que c'est très dommage.
Ouais. Vous sentiez un peu dans un carcan au conservatoire,
un peu? Un petit
dire
peu,
ça comme
oui.
Ça
et puis, je me sentais, un petit peu seule, parce que souvent quand on étudie le piano, c'est pas comme pour le violon, pour le violoncelle, ou on peut être dans un orchestre, le piano c'est quand même un instrument assez solitaire, dans le classique surtout. Et là, en découvrant le jazz et le chant, je me suis tout de suite senti beaucoup plus entourée, et c'est vraiment comme ça que je vois la musique.
On voit en tout cas la trace de ce parcours classique dans l'album, par exemple avec cet arbre ravéologique. Alors ce morceau, Camille Berthaud, c'est un des bijoux sonores de l'album. Hein. Expliquez-nous, comment est-ce que vous l'avez composé?
Alors, j'avais déjà, Ravel est mon compositeur vraiment préféré, celui que j'ai peut-être le plus joué au piano, Je me suis dit, il faut que je lui rende hommage, parce qu'il fait partie de mon arbre généalogique, d'où le titre arbre ravéologique. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un medley avec tous les morceaux qui m'ont marqué, où j'ai joué. Donc, c'est pour ça que c'est comme un arbre où on voit des petits oiseaux là. J'ai eu vraiment envie de cette ambiance. Et donc, je lui rends hommage de cette façon-là. Et ça a été vraiment un travail de canevas avec l'arrangeur pour voir comment on pouvait lier tous ces petits bouts.
Alors, il y a aussi votre version des célèbres variations Goldberg de Bach, on va sans doute en parler tout à l'heure. Il y a de la musique brésilienne hein, aussi, il y a des références à la chanson française. Mmh. Vous reprenez Brassens, vous reprenez Gainsbourg et Françoise Hardy, Comment te dire adieu. Mmh. Vous reprenez Cône de Brigitte Fontaine, ça y est, je l'ai dit à l'antenne, merci de me l'avoir permis. Qu'est-ce que vous aimez au fond dans la variété, dans la chanson française? C'est le goût des mots, c'est le goût des paroles?
Oui, ben on a un patrimoine quand même assez fou, quoi, entre Léo Ferré, Barbara. C'est de la poésie.
Oui, c'est la chanson à texte d'abord. Hein.
Voilà, j'aime beaucoup ce côté théâtral de la chanson à texte, parce que finalement, elle relie toutes mes passions, la musique, le théâtre, et puis les mots.
Oui, parce que vous êtes aussi montée sur des scènes de théâtre pour enfants notamment, seulement, mais entre autres.
Bah, je suis allée au conservatoire aussi en théâtre. J'ai étudié le théâtre et puis j'ai écrit et mis en scène deux pièces de théâtre pour enfants et dans lesquelles j'ai composé aussi de la musique pour ça. Donc c'est vrai que c'est un univers qui me plaît.
Mais juste dans vos interprétations, dans la façon que vous avez justement de prononcer les mots, dans les sentiments que ces mots peuvent charrier, mais les mots, pas seulement les mots d'ailleurs, les notes aussi, les notes de votre voix, vous avez le sentiment lorsque vous êtes sur scène de jouer un personnage, de jouer la comédie, d'interpréter quelqu'un?
Pas jouer du tout. Non, j'ai pas l'impression d'être autre chose que moi-même. J'ai l'impression d'être. C'est un peu l'endroit où je suis le plus moi-même. Mais disons que j'ai un peu le rôle comme d'un conteur. Je suis complètement moi-même avec mes vrais sentiments. J'ai pas l'impression de jouer un personnage, comme c'est vrai qu'on peut le faire en théâtre.
Oui.
Mais par contre, je raconte des histoires.
D'accord.
Et voilà.
Et l'album, c'est votre histoire à vous, d'une certaine façon.
Complètement.
Avec les différentes facettes de votre personnalité et de votre vie. C'est comme ça que vous l'avez construit?
C'est ça. Je me suis complètement inspirée de mon vécu, mais c'était pour pouvoir être plus sincère possible, quoi.
Oui, mais votre vécu, c'est-à-dire que ce sont des chansons que vous aviez l'habitude d'écouter déjà avant, qui font partie de votre parcours musical, ou bien ce sont des chansons qui vous ont rappelé vraiment ce que vous avez réellement vous vécu?
Ah, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il faudrait voir pour chaque chanson, parce que il y en a qu'il fallait que je fasse absolument. Il y en avait d'autres qui sont venus un petit peu plus sur le tard, en dialogue avec l'arrangeur, avec le label. Donc c'est
Un album si personnel que ça, c'est vraiment un album collectif.
Oh si, c'est très très personnel. C'est très très personnel. Disons que je lançais quelque chose, je lançais une idée, j'interrogeais, et puis je donnais ma décision finale. Non, si c'est vraiment un morceau très 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 personnel.
On va marquer une courte pause, Camille Berthaud, et on va continuer à se pencher sur votre parcours, sur votre album, et on va parler de jazz. Nous accueillerons dans la deuxième partie de l'émission le musicologue Éric Fardet, qui sera avec nous en duplex de Lyon, et vous m'en direz des nouvelles.
Far away, the people fall in the stomach of the mountain, here I wait.
Direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Notre invité aujourd'hui, Camille Berthaud, pour son album Pas de géant chez Sony Music.
Pas de géant. que tu n'es pas là pour être ce que le monde pas de géantie a fait quand ce que
amusée à chanter la petite un jour qu'elle s'ennuie, ce genre de jour un peu tristesse bien rétrécie, et qui t'abaisse un jour qui retourne ta veste et qui t'embarque à grande vitesse sans que tu aies demandé ton reste. Et pas de mouche changée en pas de géant.
Mais t'es sérieuse?
Absolument, je n'y croyais pas non plus. Sur le moment, et voilà le pouillet de la gosse promener sur un virtuel casse.
Mais non,
mais si, et là commence un cocasse et atypique. Oh, oh, ta vie. Passage par la peau, la servie, New York, l'Italie et l'Andalousie, de personnages à la Texaverie. Où sorti tout droit d'Acatabre et qui se rejoignent sur la piste. Où la transe règne près de tout ce qui nous reste pour s'en sortir, non? Notre ensemble fou et rire. Je pense que c'est un fait dans cet état que contraint de vitesse. Lorsqu'il a trouvé ses démoniaques, jeune fille de pauvre Tommy Flanagan va s'en souvenir encore de là où il est. Il faut dire que se retrouver face à une pareille bête pour la première fois de sa vie, ça doit vraiment donner. Exercice de virtuosité et bien au-delà. Ça c'est comme le corps d'un fauve relâché qui se déploie, comme si le ciel était éclairé soudainement par une idée. Et je citerai la fabuleuse phrase d'Alain Gerber: tout ce que tu sais tient dans ta tête, mais tout ce que tu ne sais pas déborde de ton cœur. C'est à mon avis la plus jolie image que l'on peut trouver, n'est-ce pas? Car l'improvisation est tout d'abord une affaire de sensations, de ressenti, une manifestation de ce que je suis, la musique qui me représente. Disait la belle Charléane, c'est un peu comme un concentré d'âme, comme si l'on ne devenait qu'une seule chose, l'essence. Chanter cette improvisation, c'est un peu comme essayer de danser avec cet absolu dans un seul souffle. Prendre le train avec train et surtout ne pas traîner, sauter tout. Quand tu es dans son vide, on verra bien ce qu'il advient. On est là pour délivrer l'urgence, la subjectivité radicale, pas de conceptualisation. On s'en fout, on est juste là pour dire aux self contrôle d'aller voir si j'y suis.
La chanson s'appelle Là où tu vas et elle raconte finalement, Camille Berthaud, comment vous en êtes arrivé là.
Exactement.
Voilà, votre histoire du début jusqu'à pratiquement aujourd'hui.
C'est ça, c'est ça. Et puis ce que j'ai pu lire sur l'improvisation, sur Coltrane, sur des idées en général.
Oui, parce que Coltrane, c'est pas n'importe qui pour vous, parce que si vous en êtes là, si vous avez fait ce pas de géant, comme vous en parlez dans Là où tu vas, ben c'est tout simplement parce que ça a commencé ainsi.
Pas de géant tu as fait quand tu as compris que tu n'es pas là pour être ce que le monde veut. Pas de géant tu.
Un hommage solo Giant Step de Coltrane, vidéo que vous avez postée sur le net. Et c'est comme ça que vous vous êtes fait connaître.
Ouais, ouais, il y a eu un effet domino complètement dingue. J'ai mis cette vidéo au départ comme ça pour partager ça à des copains.
Oui, c'était juste un amusement comme ça entre amis. C'était pas une stratégie marketing en disant aujourd'hui pour percer, il faut passer par le net.
Pas du tout. Moi, je n'y connais rien à tout ça en plus. Je sais rien de rien de promotion de trucs. Je suis nulle. Je suis pas du tout une web. Girl.
Ou une web girl, oui, c'est ça. Pas du tout une geek non plus.
Pas du tout.
Ouais, pas du tout.
Et donc j'ai fait ça et puis je voyais juste ma vidéo qui était partagée. En 3 jours, 500 000 vues. Et je recevais des messages. Ça prenait des. Ça prenait vraiment
des
proportions complètement folles. Et puis j'ai commencé à être contactée vraiment par des gens assez importants. Notamment, je venais d'enregistrer en autoproduction mon premier album et j'ai été contactée par un label américain, Sunnyside, pour pouvoir le distribuer. Ouais.
Ça a l'air simple à vous entendre, Camille Berthaud.
Ça l'a été, en tout cas, en l'occurrence, pour ça. Tout le reste ne l'est pas forcément, mais en tout cas, ça l'a été vraiment.
Bonjour Eric Ferdé.
Bonjour Camille, bonjour Jean-François.
Bonjour Eric.
Bon, vous connaissez hein, évidemment Coltrane et Giant Step.
Oui, oui, j'ai connu Camille par cette vidéo.
Ah, d'accord, vous faites partie de ceux qui avaient aimé la vidéo, voire qui l'avaient partagée, Eric Ferdé.
Absolument,
ah, bah,
absolument.
Ah, formidable. Alors, vous êtes musicologue, vous publiez aux éditions Connaissances et Savoirs un livre intitulé Vocal Jazz Groups Cat and Vocalize. Alors, ce que l'on vient d'entendre, justement, cette vidéo sur Giant Step, c'est ce qu'on peut appeler une vocalize ?
C'est du vocalise.
Du vocalise avec un E.
Oui,
hein, voilà.
C'est ça. C'est le mot de Leonard Fizer sur l'enregistrement en 53 d'Annie Ross qui fait la même chose il y a quelques années que Camille. Elle prend un thème qui a été enregistré et puis elle refait un disque avec en mettant ses paroles. Et Leonard Fizer est critique de jazz et il dit dans son article, baptisons, faute de meilleurs termes, baptisons-le vocalise, du français vocalise d'ailleurs, exercice vocal, et voilà. ce bel exercice qu'on vient de voir de Camille, voilà, d'où ce mot de vocalise qui est resté, qui est très éloigné de ce qu'on pourrait attendre d'une vocalise française, mais,
oui.
mais qui correspond à cet exercice de traduction.
Voilà, donc vocalise avec un E avant le S, hein, faut le préciser voilà. Puisqu'on est à la radio. Mais alors justement, on est réellement dans l'improvisation, hein, à travers cette vidéo-là, ou bien c'est une simulation d'improvisation, Camille Berthaud?
Oui, l'improvisation, c'est là, en l'occurrence, elle a été faite d'abord par John Coltrane. Et moi, ce que je fais, c'est que j'écris des paroles sur la mélodie de son improvisation. Donc je n'improvise pas. Par contre, j'improvise dans mon album sur d'autres morceaux, mais là, en l'occurrence, je ne suis pas en train d'improviser, je suis en train de chanter l'improvisation de John Coltrane.
Eric Ferdé, vous expliquez hein, dans le livre la différence qu'il y a entre donc ce vocalise qui serait, si j'ai bien compris, une sorte d'improvisation simulée et le scat qui, lui, est réellement complètement improvisé.
Tout à fait, dans les différentes modalités que peut utiliser la voix en jazz, il y en a une, celle dont on parle, qui est la transcription. Elle utilise des choses existantes et à l'écoute. Si vous mettez des paroles, on voit évidemment que c'est très difficile de pouvoir faire une phrase aussi difficile techniquement en rajoutant un texte dessus. Mais si vous faisiez la même chose, et Camille le fait dans plusieurs de ses enregistrements avec des onomatopées, mais en partant de musique de jazz existante ou même de Glenn Gould, de Bach, comme elle le fait aussi et comme avait fait les Swingle Singers quelques années avant, vous avez aussi du vocalise, c'est-à-dire des transcriptions pour voix en jazz, et ces transcriptions-là utilisent ou non des textes. C'est évidemment plus complexe quand il y a un texte à écrire parce que il y a cette forme dialoguée, cette histoire que l'on raconte. On l'a bien entendu dans le Giant Step de Camille tout à l'heure, vocabulaire spécifique, un français très oral, des accentuations, des assonances, une souplesse de la langue qui rappelle le slang aussi qui était utilisé par Lambert, Hendrix and Ross dans leurs albums dans les années 60 où elle parle de Gerber. Voilà, oui. On parle en trinité. On parle entre soi, entre jazzmen, on se raconte comment on improvise, comment on recherche son inspiration.
Oui, l'idée c'est quoi ? C'est de faire sonner les mots, de faire sonner les sons comme des notes ?
Faire sonner les mots comme des notes pour les chanteurs, faire
oui.
sonner les notes comme des mots pour les instrumentistes. On voit bien qu'il y a à chaque fois une sorte de compétition, de performance entre les vocalistes et les instrumentistes qui évolue avec les styles et qui prend une ampleur considérable avec la période bop. Et puis toujours cette incarnation, cette tentative de fusion entre mots et notes pour être, pour les instrumentistes, le plus vocal possible et pour être, pour les chanteurs, le plus instrumental possible. Les chanteurs aujourd'hui, Bobby McFerrin, Tex-Six, imitent les guitares électriques. On sait imiter les basses, les percussions depuis des années. On a tous dans l'oreille les Naturally Seven, beaucoup de groupes actuels qui ont des sons où, voilà, à l'oreille, on est incapable de différencier.
Alors, Camille Berthaud, vous avez un instrument à l'oreille et avec vos cordes vocales quand vous chantez ?
Oui, après, j'ai pas tous les instruments. Je serais pas du tout capable de faire n'importe quel instrument. Je suis pas vraiment une imitatrice, mais par contre.
Mais vous êtes partie du saxophone de Coltrane ?
Oui, je
Vous suis posez pas tant de questions.
Non, j'ai pas, surtout que je pense pas que vraiment ma voix ressemble à un saxophone quand on l'entend dans Là où tu vas. Non, je pense que je voulais en tout cas, c'est très intéressant ce qui a été dit, c'est que je voulais en tout cas faire une liaison entre, enfin réunir finalement les instrumentistes et les chanteurs, parce que c'est une bonne façon de, je rends hommage à une improvisation d'un instrumentiste en le faisant avec ma voix, donc les réunir, et puis aussi pourquoi pas avec le jazz et d'autres types de musique comme par exemple le slam, le rap, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi dans ce morceau. Et dans le rap, chez certains bons rappeurs, ils disent vraiment c'est de la poésie aussi. Donc j'avais envie de réunir plein de choses. C'est un peu ambitieux, mais
il y a deux mots très intéressants dans ce que vient de dire Eric Fardet. C'est le mot fusion entre la voix et les instruments, et puis c'est le mot compétition.
Ouais.
C'est à la fois fusion et compétition.
Oui, mais surtout
parce que c'est pas la même chose. Fusion, ça vit plutôt justement de se fondre. Et compétition, c'est plutôt se démarquer, être meilleur que l'autre, pousser plus haut encore les limites.
Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire, la compétition. J'ai baigné dedans au conservatoire en piano classique, et justement c'est ça qui m'a fait fuir, donc c'est pas du tout vers ça. Ou alors si c'est une compétition, c'est une sorte de battle sympathique et amical, mais je vois plus une fusion qu'autre chose en tout cas.
Toi qui attends la suite, je vais y donner suite. Si donc à la suite, tu dois ton exigeante écoute. Un prélude qui ressemble d'après moi beaucoup plus à une suite. Non pas que les musiciens veulent rejoindre leur suite, mais jouer trop net à la suite peut entraîner parfois des suites fâcheuses. Tu t'as un malaise, tu devines la suite, ainsi de suite. J'espère que tu me suis. Nous avons donc songé pour le spectacle et sa poursuite. Une suite de notes à la suite et ainsi de suite. Nous ne manquons pas de suite dans les idées. Les suites, c'est là par la suite. Sans suite, une poursuite.
Un extrait de suite au prochain numéro. Camille Berthaud qui est avec nous aujourd'hui dans VMDN. Un morceau que l'on retrouve donc sur son deuxième album, Pas de géant, chez Sony. Alors Eric Fardet, est-ce que pour vous, Camille Berthaud, puisque visiblement vous la connaissez pas mal, s'inscrit dans la tradition française du jazz vocal?
Oui, absolument. Oui. À la fois son écriture, elle a beaucoup parlé tout à l'heure d'un travail d'écriture, de composition, mais aussi d'écriture de texte. On voit bien ici une filiation qu'on pourrait établir avec Mimi Perrin, qui a beaucoup travaillé le français pour le groupe des Double Six dans les années 60. Il y a aussi tout ce qu'elle a pu reprendre, des musiques de Bach, les différentes influences. On sait que le jazz vocal, notamment, est une musique métissée, que ce soit avec Nat King Cole, avec beaucoup de chanteurs, où on s'est demandé est-ce que ce sont des jazzmen. Camille Berthaud est évidemment une jazzwoman de grande envergure, mais on sent ce métissage des musiques. Elle en a parlé, elle a même parlé tout à l'heure du slam. Donc on voit bien que la parole, la musique sont mêlées pour ces créations originales qui s'appuient quelquefois sur des transcriptions.
Oui, Camille Berthaud, on évoquait Mimi Perrin à l'instant de Double Six. Vous êtes nourrie de cette musique-là?
Oui, bien entendu. Oui, finalement, en France, ça a été au niveau de la vocalise, c'est un petit peu ma référence, oui.
Alors ça s'apprend, le vocalise Eric Fardet, parce que on apprend qu'en vous lisant que le jazz vocal est enseigné aux États-Unis depuis les années 70, vous précisez que c'est le cas également en Europe du Nord, pourtant c'est une autodidacte, Camille Berthaud.
Oui, On a une très grande école dans les aux États-Unis, au Canada, beaucoup d'universités. La plupart des grandes universités ont un cursus entier, master et PhD, doctorat de jazz vocal.
Oui.
On apprend à écrire dans le style des double six, de Lambert Hendrix and Ross, des New York Voices. Voilà, ça fait vraiment partie de. Il y a des battles, mais des compétitions entre la côte ouest, la côte est. Il y a beaucoup d'universités du Nord. Je pense au Real Group, qui est vraiment emblématique depuis 30 ans de la qualité du chant des pays scandinaves, où pareil, les universités ont complètement intégré le chant jazz à leur cursus universitaire.
Quelles sont les principales difficultés sur le plan vocal, Eric Ferdé?
Je crois que aujourd'hui il n'y a pas de difficulté particulière. Ce que l'on voit chez Camille Berthaud, c'est une très grande technique, une connaissance des styles musicaux, une capacité à utiliser vraiment sa voix comme un instrument, et puis ensuite cette capacité aussi à écrire. Enfin, on voit bien la multiplicité des qualités pour cette musicienne. En France, ce que j'ai appelé l'école parisienne de vocalise, qui est autour de trois groupes qui ont fait des transcriptions, les double six, les swingle singers, que tout le monde connaît aussi, mais qu'on ne s'attend pas à trouver dans cette école de jazz de vocalise, et puis Choir avec Christiane Legrand, qui a fait un seul album, deux transcriptions de musique de jazz pour piano avec des voix.
Elle, c'est la fée, lui, c'est le conte. Des contes de fées, il en raconte. Sur le contrat, il compte fleurette. Vite fait, bien fait, avec clochette. Elle fait sa fée, il fait ses contes. Y'a de quoi faire, tout conte de fée. Il compte sur elle pour étoffer son compte en banque. Vite fait, bien fait. Live happily, ever after. Lui avait promis le compteur. Ma jolie fée, fais-moi confiance. Paie-moi donc tes fils sans méfiance. Tu m'en racontes des contes de fées. Moi je m'y fais passer sur fées. Fais pas si fées, pas ça compteux. Nus de tout ça, compte plus sur moi.
Voilà, un morceau qui s'appelle Contes de fées, que vous signez Camille Berthaud sur RFI. Alors, sur ce titre et sur l'album, vous chantez vraiment en français. De temps en temps, il y a quand même quelques petits mots en anglais. C'est un choix artistique fort, ça, de chanter en français quand on fait du jazz. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là?
Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sens pas mal conteuse en tant que chanteuse. Et pour raconter des histoires le plus sincèrement possible, je pense que je le ferai le mieux, de mon mieux, avec la langue qui est vraiment la plus émotionnelle pour moi, celle avec laquelle j'ai vécu le plus d'émotions. Et donc c'est le français.
Et pourtant swinguer en français, c'est pas si naturel que ça.
Oh, mais ça c'est des
idées reçues, ça.
C'est des idées reçues, oui, il y en a beaucoup. Au départ, le jazz était une musique populaire, maintenant c'est une musique un peu de snob. Peu importe quoi. Les choses changent tout le temps, donc peut-être que ce sera le français, vraiment la langue qui swing, j'en sais rien. Tout est possible de toute façon.
Eric Ferdé, le jazz vocal en France s'est développé en français ?
Oh, le jazz vocal, oui. Et depuis que le français s'est assoupli à partir de morceaux comme le débit de lait, comme voilà, on a beaucoup de chanteurs qui ont assoupli cette prosodie du français. Moi, je l'ai vu beaucoup sur le travail qu'a fait Mimi Perrin pour les Double Six. Et une fois que le français est assoupli, il retrouve cette capacité à se coller à une phrase de jazz et à avoir ce débit tout à fait naturel et qui correspond non pas à un français écrit mais à un français oral. Donc les formes dialoguées qui sont que l'on voit dans les paroles de Camille que j'ai pu entendre tout à l'heure, ce vocabulaire particulier, ces accentuations, ces assonances, ces apocopes, ces syncopes, voilà, toute cette souplesse font que aujourd'hui oui, le français swing, le français jazz.
Alors on parlait de Goldberg tout à l'heure, allez, juste pour le plaisir. Voilà les variations Goldberg de Bach revues par Camille Berthaud. Merci infiniment Camille Berthaud d'être passée nous voir.
Merci beaucoup.
L'album Pas de géant chez Sony Music. Vous serez en concert le 8 mars au Café de la Danse à Paris. C'est complet. Le 2 juin au Festival Jazz à Saint-Germain. Et puis à la Ferté-sous-Jouarre le 1er juillet. Merci également à vous Eric Fardet. Votre livre Vocal Jazz Groups Cat and Vocalis. C'est aux éditions Connaissances et Savoirs dans la collection Art et Culture Musique. Et merci à nos collègues de France Bleu Lyon qui nous ont permis de réaliser ce duplex avec vous.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on continue dans l'éclectisme, direction La Paz. Pour terminer cette émission, La Paz, capitale administrative de la Bolivie, qui n'a pas toujours très bonne réputation auprès des touristes, perchée à quelques 3600 mètres d'altitude. La ville n'est pas particulièrement jolie, pas vraiment bien organisée, et il faut le reconnaître, assez polluée. Mais l'initiative d'une association fait changer le regard des visiteurs sur la ville. L'organisation Hormigón Armado propose en effet des visites guidées par des cireurs de chaussures, visites insolites donc dans des lieux méconnus avec Alice Campagnol.
Rendez-vous est donné à la station centrale du téléphérique rouge à La Paz pour une visite de la ville un peu spéciale, une visite guidée par une cireuse de chaussures, une lustrabotas comme on les appelle ici. Esther, la guide, est facile à repérer. Elle transporte sa boîte à cirage. Les lustrabotas seraient environ 3000 entre la ville de La Paz et celle périphérique de El Alto. Ici, ils font en quelque sorte partie du paysage urbain. Edith est québécoise et aujourd'hui, elle est seule pour la visite. Dans le téléphérique déjà, Esther explique, ce n'est pas un city tour comme les autres.
Nous les guides, nous sommes ici pour répondre à toutes les interrogations. S'il y a une question, n'importe laquelle, je suis là pour y répondre, et pas seulement à propos de la visite. Beaucoup de visiteurs nous questionnent sur nos vies, par exemple, et il n'y a aucun problème avec ça.
Le métier de lustrabotas est très mal vu en Bolivie. Certains boivent ou se droguent, les amalgames sont vite faits. Alors l'uniforme de cireur, eh bien c'est un passe-montagne pour cacher son visage. Mais Esther, elle, n'a pas honte.
Certains lustrades disent « Je suis le meilleur élève de ma classe » ou « Le président de telle association » et si les autres savaient ce que je fais, ils me mettraient de côté. Mais moi, je sais que beaucoup voient mon travail d'un mauvais œil. Mais c'est mon travail. C'est avec ça que j'élève mes enfants. C'est grâce à ce métier que ma fille aînée est diplômée aujourd'hui.
Le quartier est visité, celui du cimetière n'est pas très connu. Des touristes réputés dangereux, les visiteurs n'y mettent en général pas les pieds. Mais aux côtés d'Esther, Edith déambule tranquillement entre les stands des marchés. Dans la rue des Poissonniers, la guide nomme chaque espèce de poisson. Et un peu plus loin, elle épargne Edith, qui est végétarienne, et elle évite les étals des bouchers. Chaque spécialité, elle la connaît, mais elle n'oublie jamais de mettre en garde les touristes.
Beaucoup de touristes s'intéressent à cette boisson, le moko shinshi, et certains goûtent. Mais moi, je ne le conseille pas à cause de l'eau. On ne sait pas bien comment ils l'ont fait bouillir et ça peut être un peu dangereux. L'estomac du touriste n'est vraiment pas fait pour notre nourriture. Par ici, maintenant.
Edith n'est pas une touriste, car elle habite La Paz, mais tout de même, elle fait des découvertes.
Effectivement, il y a des choses que j'ai découvertes dans le tour, même en vivant à La Paz, parce que il y a des endroits où est-ce que, en habitant ici, on n'a pas toujours l'opportunité de découvrir. Et là, avec la guide, on avait la possibilité de pouvoir faire un parcours sans se perdre.
L'idée de l'association Hormigón Armado, qui a mis en place ces visites, est de présenter aux visiteurs la face cachée de La Paz et par la même occasion assurer un meilleur revenu au Lustra. Le calcul est rapide, 80 bolivianos par personne la visite, soit 10 euros, contre une moyenne de 30 à 40 bolivianos par jour en tant que cireur de chaussures. Mauvais temps dans les rues de La Paz, il pleut à verse, alors le petit groupe s'abrite et Esther prend le temps d'ouvrir sa boîte à cirage.
Le tarif normal, c'est 1 boliviano 50 pour les couleurs les plus communes, le noir et le marron. Bon, il faut être sincère, on fait en fonction de la personne aussi. Si ce sont des étrangers ou des touristes, on fait payer plus.
Mais la visite de la ville, elle, coûte le même prix pour tout le monde.
Reportage d'Alice Campagnol en Bolivie. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec l'avocat Richard Malka qui, après de nombreuses incursions comme scénariste de bande dessinée, publie son premier roman. Il s'intitule Tyrannie. Il est publié aux éditions Grasset et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.